Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le mal logement en France, le rapport de la Fondation Abbé Pierre met cette année l'accent sur le mal logement des femmes. Pauline Portefaix, chargée d'études au sein de la Fondation, sera l'une de nos invitées. Israël a mené dans la nuit des frappes aériennes sur la bande de Gaza. C'est arrivé quelques heures après qu'une roquette tirée à partir de ce territoire palestinien a été interceptée. Dans ce contexte, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre israélien. La plateforme des ONG françaises pour la Palestine appelle le président français à interpeller le chef du gouvernement israélien sur la colonisation en Cisjordanie occupée. Nous écouterons Pierre Mottin, responsable plaidoyer de la plateforme. Et ce sera demain au Sénat, un colloque intitulé « Israël-Palestine, état des lieux », réunion organisée par la sénatrice de Paris, Esther Benbassa, que vous entendrez. Les femmes sont davantage exposées au risque de mal logement en France. C'est ce qu'indique le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Entretien avec Pauline Portefaix, chargée d'études au sein de la Fondation. Elle déplore également la présence cet hiver de nombreux enfants à la rue.
Du côté des personnes sans domicile, cet hiver, il a été marqué par la présence de nombreux enfants à la rue. En décembre 2022, on comptait 1170 enfants à la rue, dont 330 enfants de moins de 3 ans. Donc c'est beaucoup. Donc c'est ça, c'est une première évolution sur la population sans domicile, c'est le nombre d'enfants. Et aussi une augmentation du nombre de personnes à la rue. On est aujourd'hui à 330 personnes sans domicile à la rue ou en hébergement.
Et vous vous inquiétez cette année du nombre important de femmes aujourd'hui à la rue ou en situation de mal logement?
Oui, ce qu'on peut dire et ce qu'on voit, c'est que la population sans domicile, elle se féminise. Il y a deux tendances. D'abord, la prise en charge des mères seules avec enfants, elle a tendance à être moins protectrice qu'avant parce qu'il y a une saturation des places d'hébergement, une saturation du 115. Et la deuxième tendance, c'est une tendance à l'invisibilisation des femmes sans domicile. De plus en plus de femmes qui adoptent des stratégies pour éviter la rue parce que elles sont plus exposées à toutes les violences de genre, les harcèlements, les viols. Donc elles évitent la rue et en ça, on les voit, elles sont moins visibles. En fait, elles fréquentent moins les accueils de jour, les douches municipales. On va moins les voir et elles vont être moins présentes. C'est pour ça qu'on parle d'un phénomène d'invisibilisation.
Et vous mettez en lumière des comportements discriminatoires également à l'égard des femmes concernant le logement?
Oui, alors on s'est appuyé sur ça, sur des travaux de recherche qui ont été menés, notamment par Sybille Bessière, qui montrent que il y a des pratiques discriminatoires au moment de l'héritage, en fait avec des familles qui vont avoir tendance à considérer les femmes comme moins capables de garder la propriété, moins capables de la gérer, de la faire durer dans le temps, notamment en raison d'une séparation. Les femmes ont moins de revenus, en moyenne moins de revenus que les hommes, et à ce moment-là, au moment d'une séparation conjugale, c'est plutôt les hommes qui parviennent à conserver le logement par rapport aux femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a une discrimination envers les femmes au moment de l'héritage, qui font qu'elles reçoivent plus de compensation au moment de l'héritage et moins de patrimoine immobilier.
Et concernant les femmes enceintes et les jeunes mères, la Fondation Abbé Pierre souligne que face à la pénurie de places d'hébergement, eh bien l'hôpital devient une variable d'ajustement pour les femmes enceintes et les jeunes mères.
Oui, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on voit clairement, c'est que le nombre de femmes enceintes ou avec des nouveau-nés qui sortent de la maternité, il y en a de plus en plus qui sortent sans prise en charge, sans solution d'hébergement. Et ça, avant, elles pouvaient rester un peu plus à l'hôpital, mais c'est vrai qu'avec la baisse des moyens des hôpitaux, c'est très compliqué pour elles et elles sont très vite remises à la rue avec leur bébé dans les bras.
C'était important cette année de faire ce focus sur le genre du mal logement.
C'est important de visibiliser ces situations, qu'on pense aux mères seules avec enfants qui sont surreprésentées quand même dans les situations d'habitat indigne et de surpeuplement, ou encore les décohabitations familiales au moment d'un coming out pour les personnes, pour les jeunes personnes LGBT qui ont plus de risques de se retrouver à la rue, ou encore ce qu'on a dit tout à l'heure, les pratiques discriminatoires au moment de l'héritage qui font que les femmes, elles ont moins accès à la propriété. Ces phénomènes, ils sont assez invisibilisés et c'était important de les mettre en lumière pour que les stratégies de lutte contre le mal logement, elles prennent en compte ces questions-là pour lutter efficacement contre le mal logement et finalement mettre fin à cette invisibilité des victimes.
Et plus globalement, sur le nombre de personnes sans domicile fixe aujourd'hui en France, ce nombre a doublé en 10 ans.
Oui, ce nombre, il a doublé en 10 ans. La dernière enquête de l'INSEE sur le sujet, elle date de 2012. Donc, on n'a pas de nouveaux chiffres de l'INSEE très récents. Mais ce qu'on fait à la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'on agglomère la statistique publique. Donc, en comptant le nombre de personnes en hébergement, dans les enquêtes aussi qui sont faites dans les différentes villes auprès des personnes à la rue, on arrive à comptabiliser et un peu actualiser ce nombre et on se retrouve aujourd'hui avec 330 000 personnes sans domicile, donc qui sont à la rue ou en hébergement d'urgence.
Concernant les femmes qui aujourd'hui sont en situation de mal logement ou qui sont à la rue, vous souhaitez aussi mettre en lumière les violences de genre?
Oui, exactement. La particularité des parcours des femmes sans domicile, c'est leur vécu face aux violences de genre. Elles sont très exposées aux violences sexistes et sexuelles. Et les professionnels sont encore très mal formés sur le repérage de ces questions et sur la prise en charge de ces questions. Donc c'est pour ça qu'on a aussi mis la lumière sur ce sujet pour que ces questions soient beaucoup mieux prises en charge et pour lutter plus efficacement contre ces situations.
Cette protection, comment pourrait-elle être réalisée ? Le fait de mieux protéger ces femmes?
Eh bien, par exemple, on compte 210 000 femmes victimes de violences conjugales par an et 17% d'entre elles auraient besoin d'un hébergement. Aujourd'hui, même s'il y a eu une augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence dédiées aux femmes victimes de violences, c'est clairement encore insuffisant. Il y a encore de nombreuses femmes qui appellent le 115 pour avoir une place d'hébergement en urgence parce qu'elles veulent quitter des violences conjugales dans leur foyer, mais elles n'ont pas de place immédiatement. Donc là, il y a clairement un effort à faire au niveau du nombre de places, au niveau aussi du nombre de places qui sont spécialisées, parce que c'est pas seulement des hébergements d'urgence dont elles ont besoin, c'est des hébergements d'urgence qui sont spécialisés, qui permettent de prendre en charge ces questions. Aussi, un autre point, c'est l'attribution des logements sociaux. Donc même s'il y a aussi une progression sur le nombre de logements sociaux qui sont attribués aux femmes victimes de violences, clairement, il y a encore du progrès à faire sur le nombre de logements qui peuvent leur être attribués. Et enfin, peut-être la dernière chose, c'est de former tous les professionnels à la prise en charge de ces questions, parce que quand une femme vit des violences de genre au sein du foyer, c'est souvent la victime qui va fuir le logement et qui va perdre donc le logement et qui va se retrouver en errance.
Pauline Portefaix, chargée d'études au sein de la Fondation Abbé Pierre. Pas de désescalade dans le conflit israélo-palestinien. Israël a mené dans la nuit des frappes aériennes sur la bande de Gaza. C'est arrivé quelques heures après qu'une roquette tirée à partir de ce territoire palestinien a été interceptée. Plusieurs nouvelles roquettes palestiniennes ont été tirées après ces frappes. C'est dans ce contexte que le Premier ministre israélien se rend ce jeudi en visite officielle de 2 jours en France. Benjamin Netanyahou sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. La semaine dernière a été marquée par la mort de 10 Palestiniens jeudi dernier à Jenin, en Cisjordanie occupée, et par 2 attentats à Jérusalem qui ont provoqué la mort de 7 Israéliens. La plateforme des ONG françaises pour la Palestine appelle le président français à interpeller le chef du gouvernement israélien sur la colonisation en Cisjordanie occupée. Pierre Mottin, responsable plaidoyer de cette plateforme.
Ce qu'on demande au président français, c'est d'avoir un message clair envers Benjamin Netanyahou que la colonisation de la Cisjordanie doit cesser. S'il y a une recrudescence des violences ces derniers jours, et même cette dernière année, 2022 ayant été l'année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis la fin de la seconde intifada en 2005, donc s'il y a cette recrudescence des violences, c'est bien parce que la colonisation continue, s'accentue et la situation est de pire en pire pour la population palestinienne. Donc nous, ce qu'on demande à Emmanuel Macron, c'est de porter ce message de refus de la colonisation, de condamnation ferme de la colonisation face à Benjamin Netanyahou, et parallèlement d'engager un chantier pour interdire le commerce des produits des colonies en France. La France affirme qu'elle ne traite pas le territoire israélien comme les colonies israéliennes. Très bien. Dont acte qu'elle n'importe pas sur son sol des produits qui viennent de colonies qui sont toutes illégales au regard du droit international.
Et face à la dégradation sécuritaire, ces derniers jours, vous estimez que la colonisation n'est pas suffisamment mise en lumière aujourd'hui ?
Non, absolument. L'appel rituel qu'on entend, c'est toujours la reprise des négociations entre Palestiniens et Israéliens pour une solution à deux États. Mais même si c'est quelque chose qui pourrait être souhaitable dans l'absolu, les conditions ne sont absolument pas réunies aujourd'hui pour qu'il y ait une reprise des pourparlers de paix. On n'est pas face à une situation avec deux parties équilibrées. On a un pays qui occupe et colonise un autre pays. Il y a une telle colonisation que les perspectives de pourparlers d'une solution à deux États sont totalement inenvisageables, malheureusement, aujourd'hui. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut avoir des mesures fermes pour montrer à Israël que la colonisation doit cesser. Et c'est en faisant cesser la colonisation et l'occupation de la Cisjordanie qu'on pourra enfin avoir les conditions nécessaires à ce qu'advienne la paix et la justice au Proche-Orient.
Pouvez-vous nous rappeler ce que dit le droit international sur cette situation ?
Oui, la colonisation est tout bonnement un crime de guerre au regard du droit international. Israël n'a absolument aucun droit à coloniser la Cisjordanie, Jérusalem-Est incluse, comme elle le fait. C'est un crime de guerre. Israël se rend coupable de crimes contre l'humanité. On parle aussi d'un crime d'apartheid. Il faut voir qu'il y a une responsabilité énorme des autorités israéliennes au regard des violations du droit international en Palestine occupée.
Et vous attendez donc un message clair du président de la République française ?
On attend un message clair d'Emmanuel Macron. On attend une déclaration qui serait forte de refus de la colonisation et d'annonces d'action au niveau français pour que la France contribue à mettre fin à la colonisation en Cisjordanie.
Une colonisation qui évolue de quelle manière ces derniers mois, ces dernières années ?
C'est une colonisation qui s'intensifie de plus en plus. Aujourd'hui, on compte plus de 675 000 colons israéliens en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, pour environ 3,5 millions de Palestiniens. Et parallèlement, on assiste à une augmentation très très importante des violences infligées par les colons israéliens au niveau de la population palestinienne, que ce soit des attaques de villages, des caillassages de voitures, des tirs sur des paysans palestiniens qui s'occupent de leurs oliveraies. C'est une situation qui est vraiment de plus en plus dure sur le terrain. C'est notamment ce que notre membre Première Agence Internationale, l'ONG Première Agence Internationale, qui fait partie de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, nous fait remonter de manière quasi quotidienne.
Pierre Mottin, responsable plaidoyer au sein de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Et ce sera demain au Sénat, un colloque sur la situation en Palestine, colloque intitulé Israël-Palestine, état des lieux, réunion organisée par la sénatrice de Paris, Esther Benbassa, en partenariat avec la revue L'Histoire, le CRFJ et l'IREMO. Esther Benbassa, invitée de Pluriel hier soir.
Ce colloque au Sénat tombe à pic, n'est-ce pas ? Même si le durcissement à droite du gouvernement israélien n'est pas nouveau, mais actuellement il y a une situation encore plus grave avec l'élection de Netanyahou Premier ministre. Et ce colloque, bien sûr, vient pour dire qu'il ne faut pas oublier les Palestiniens, puisque ce durcissement en Israël va provoquer, bien sûr, pas mal de dégâts au niveau des relations entre Israéliens et Palestiniens. Et moi, les personnes qui me connaissent savent que je suis pour qu'il y ait également un État palestinien à côté d'un État israélien, mais je vois la situation quand même assez difficile et je pense que ça ne sera pas pour demain. Mais en tout cas, il faut crier sur tous les toits que il ne faut pas oublier ce qui se passe en Israël et surtout qu'en Israël, lorsque la démocratie prend de l'eau, on peut se dire que les Palestiniens en souffriront et ça va de soi.
La sénatrice écologiste de Paris, Esther Benbassa, invitée de Pluriel. Hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Washington a annoncé de nouvelles restrictions de visa envers les talibans, des mesures en réaction aux interdictions d'emploi et d'éducation faites aux femmes en Afghanistan. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont écarté les femmes afghanes des emplois publics. Ils leur ont aussi interdit de fréquenter les écoles secondaires et les universités ou encore de se rendre dans les parcs. Et fin décembre, les talibans ont interdit aux ONG de travailler avec les femmes afghanes, conduisant plusieurs organisations à suspendre leurs activités. L'inflation est au plus haut depuis 30 ans. En Tunisie, elle a poursuivi sa remontée pour atteindre les 10,1% en décembre dernier, contre 9,8% le mois précédent et 6,6% au même mois de l'année précédente. C'est ce qu'indique la Banque centrale de Tunisie. Quelques 7 700 000 personnes de plus de 15 ans, soit 14,1% de la population française, sont en situation de handicap et 9,3 millions se déclarent aidants d'un proche âgé ou handicapé. C'est ce qu'indiquent deux études publiées par le service statistique des ministères sociaux. Enfin, la mort du journaliste, critique et directeur de théâtre Philippe Tesson. Il était âgé de 94 ans. Philippe Tesson avait notamment fondé en 1974 le Quotidien de Paris. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal en langue française. Et si on en parlait, à 19h et 23h, le thème de cette émission, après le congrès de Marseille, quel avenir pour le Parti Socialiste, Alexis Bachelet recevra Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.